Je suis un enfant de France 98. J'ai vu tous les matchs de la Coupe du Monde sans payer d'abonnement. Je la regardais sans savoir si un but de Ronaldo avait une meilleure cote qu'une expulsion de Laurent Blanc. Et je me souviens du soir de la victoire comme d'un pur moment de bonheur simple et collectif. Traitez-moi de vieux si vous voulez, mais à l'époque, Zidane faisait de la pub pour de l'eau et mon maillot de la France n'avait pas ruiné mes parents. Je m'étais promis de revivre ça. Que si mon pays, un jour, organisait les JO, ce serait essentiel d'y participer. Et puis j'ai vu le prix des places. Et puis j'ai vu les athlètes défiler pour les grands couturiers. Et puis je me suis dit que le sport, qu'on le regarde ou qu'on le pratique, était devenu un luxe. Et bref, qui participait, ça me coûterait surtout l'essentiel. Make sense. Bienvenue dans Make Sense, un saut dans la pop culture pour explorer les questions de société. Un podcast de Schema Business School. Pour me donner tort et comprendre ce qui s'est passé entre 98 et 2024, j'ai fait appel à un homme qui connaît aussi bien le luxe qu'il aime les Jeux Olympiques, Yvan Costemanière. Il est chercheur et directeur du MSC Management du Luxe et de la Mode de Schema Business School, mais il est aussi vice-président du comité français Pierre de Coubertin. Alors peu cher, pourvu que son accent marseillais réveille notre flamme olympique. Bonjour Yvan Costemanière.
Bonjour Kevin.
Vous allez bien ?
Je vais très bien, surtout quand on parle d'Olympisme.
Ouais, pas trop déçu d'être à Paris ?
Non.
Ça va ?
Le temps est particulièrement radieux, je me croirais presque chez moi.
Excellent. Qu'est-ce qui relie le sport et le luxe ?
L'innovation, et pas simplement le luxe au sens mercantile du terme, si on se focalise exclusivement sur le prix des produits que l'on vend. Le luxe, c'est quelque chose qui est par définition inhabituel, pour ne pas dire superflu. L'excellence, ça peut paraître totalement superflu pour la majorité des humains. L'olympisme, c'est une philosophie. Donc, mélanger le tout, pour moi, il n'y a pas d'antinomie entre luxe et sport. Si je considère que l'amélioration des techniques doit, à un moment ou à un autre, améliorer les performances, une perche en fibre de verre qui se substitue à une perche de bambou, c'est un produit de luxe. Une perche en carbone, aujourd'hui, ça vaut beaucoup plus cher que ce que vous pouvez imaginer. Et un bon javelot, aujourd'hui, c'est un javelot qui vaut entre 15 et 20 000 euros. Donc, c'est un produit de luxe aussi.
Et le sport, qui plus est olympique, a une dimension populaire, ce que n'a pas le luxe.
Le luxe a aussi une dimension populaire dans sa capacité justement à irriguer les couches qui, a priori, n'ont pas accès à celui-ci. C'est pas forcément une logique d'income. En anecdote, je pourrais dire que mon facteur, qui n'a pas du tout le salaire que j'ai la chance d'avoir, est un collectionneur avide de montres. Il a des montres que jamais de ma vie je n'arriverai à récupérer, rattraper. Et il témoigne d'un amour qui est beaucoup plus fort que le mien, alors que moi je dis que je suis un spécialiste du luxe.
Donc c'est tout à fait logique de rapprocher le luxe du sport. C'est pas un hasard si LVMH a été choisi pour dessiner les médailles en or, en argent, en bronze des Jeux de Paris 2024.
Quand on est une métastructure, LVMH est une métastructure. Il faut pas le voir simplement sous ce mot-là. De toutes ces sous-marques, marques latérales. Donc, que ça soit Céline ou Givenchy, ils sont tous des pulsions de pénétration sur des territoires qui sont pas forcément les mêmes. Le monde olympique est quand même une structure géopolitique stratégique majeure, depuis 150 ans grosso modo, qui a donné naissance, entre guillemets, dans l'idée à la SDN, à l'ONU et à tous les organismes que l'on connaît aujourd'hui. Donc pour moi, que LVMH ait joué le retour des Jeux 100 ans après 1924, en n'oubliant pas quand même ceux de 1900 sur la France, c'est non seulement la logique chauvine française, c'est jouer au maximum sur les attributs les plus positifs du monde français à l'étranger, et quelque part, que ça soit en Chine ou en Inde, avec la candidature de 2036 sur Bombay, c'est une logique d'expansion qui est totalement crédible et peu onéreuse par rapport à une communication standard.
Et la France, capitale du luxe, il voit une occasion de déployer son soft power à travers le sport ?
Le mouvement olympique, c'est un mouvement géopolitique, qu'on le veuille ou pas. Chaque année, on reçoit les Young Ambassadors, ça veut dire qu'on a 3 ou 4 candidats de chacune des nationalités, de toutes les nations qui sont membres du CIO. De mémoire, il y en a 185 à l'heure actuelle. Les 185 qui viennent, c'est pour témoigner de cet engagement sportif. Pas simplement au niveau de la compétition, de l'excellence et des médailles, les breloques, pour reprendre le mot galvaudant des journalistes, mais dans la logique pédagogique d'essaimage et d'irrigation sur toutes les couches. Si je reviens au début et à la première question, les classes populaires, elles ont aussi une logique du sport qui devrait leur être enseignée au niveau scolaire, Et là, c'est les gouvernements qui devraient avoir une application logique de l'utilisation du sport et d'une tête saine avec un corps sain. Pardon, c'est jamais qu'une citation hellénique qui date de 3000 ans.
Mais alors pourquoi rapproche-t-on le sport du luxe ? Au contraire, les collaborations entre marques de luxe et marques de sport se multiplient ces derniers temps. Je prends un exemple. Je suis désolé, j'ai parlé du PSG à un Marseillais. Mais vous allez aller droit au but, j'en suis certain.
Le pacemaker va essayer de tenir, on verra après.
Je lui souhaite, je vous le souhaite. Le PSG, donc club de Paris, est capitale de la mode.
Ouais.
Il y a déjà une vingtaine d'années, avait sorti un maillot Louis Vuitton, inspiré de la malle et des sacs. Quel est l'intérêt de Louis Vuitton et quel est l'intérêt du PSG dans la manœuvre ?
Alors, societal shift, l'évolution sociologique. Quand on change de génération, qu'on le veuille ou pas, les propensions des consommateurs évoluent elles aussi. Donc, qu'un jeune aujourd'hui qui dit qu'il fait du sport parce qu'il a des sneakers Vuitton, ça me paraît incongru en tant que sportif, ancien sportif de haut niveau. Mais à date, c'est une évolution de marché. Est-ce qu'il est quelque part rédhibitoire qu'une société saute sur cette occasion et qu'elle se permette de faire le merchandising le plus luxueux possible? Alors à ce moment-là, il faut aussi remettre en cause les goodies et jusqu'à y compris les stylos.
Des Jeux Olympiques.
Oui, ils existent aussi, mais c'est normal. Dieu merci, il y a un produit Jeux Olympiques qui fait rêver chaque acheteur potentiel.
Justement, la mascotte...
Il y a même des chaises longues. Pour les Marseillais, ça devrait faire un tabac.
Ah, mais parfait, pour regarder la voile. Excellent. Ouais, justement, la mascotte, que je n'aime pas beaucoup, elle se veut populaire. C'est un bonnet phrygien. Ça fait penser à la Révolution. Mouvement a priori populaire. Quel est l'objectif ?
L'objectif, si j'en crois les amis du Cojo, c'est de casser les codes, justement de se réveiller d'une pensée qui dure trop longtemps, comme disait Paul Valéry. Mais ça, c'est un choix tactique momentané. Il est à replacer dans un contexte. Au même titre que la pensée de Coubertin de 1901, quand aujourd'hui on lui reproche d'être misogyne, c'était de dire que la femme était une alliée et que je sache, en 1920, alors que la femme n'avait pas le droit d'avoir un chéquier, d'avoir un permis de conduire ou de travailler, les femmes participaient déjà aux Jeux Olympiques en 1920. La preuve, Suzanne Lenglen.
Allez la chercher, cette médaille d'or.
Allez, attaque sur la préparation.
Ils sont champions olympiques.
La seule médaille d'or qui manquait à cette équipe. Fabuleux.
Les valeurs de l'olympisme sont amitié, respect et excellence. Mais sa devise, plus vite, plus haut, plus fort, met surtout en valeur l'excellence. Et donc un certain élitisme. Exactement comme le luxe ?
Pas simplement comme le luxe. L'élitisme, c'est encore un mot qui peut avoir une dimension sémantique totalement différente. Sport, ça a changé. Aujourd'hui, on est jusqu'à y compris dans la cohésion sociale. Donc le luxe dans le sport, ça a toujours existé. Le premier chronométreur officiel, c'était Omega. C'est quand même la société qui a sorti la montre, qui a pu atterrir sur la Lune, à l'unir en tout cas. On a toujours eu des modèles chez les champions. Et quand tout à l'heure vous citiez Zidane pour Deleuze, il était aussi mannequin pour Sauvage de Dior.
Au même moment.
En la même année.
Mais en même temps, le CEO a complété récemment sa devise par « ensemble ». C'est pour atténuer un petit peu ce côté élitiste ?
Pas du tout. Le mouvement olympique, ça a des sources qui vont jusqu'à 3000 ans. On a eu la chance d'avoir un abbé, qui était un ami de Pierre de Coubertin, qui a pondu cette devise, le « Sissus altus fortus ». Thomas Barr, sur un congrès exceptionnel, avait déjà demandé il y a 5 ans de changer et de rajouter « ensemble ». Parce que le mouvement olympique, c'est pas simplement des médailles et 15 jours tous les 4 ans ou tous les 2 ans, selon... si l'on incorpore aussi les Jeux d'hiver, c'est aussi et d'abord l'agenda 21 qui est en avance sur beaucoup de gouvernements. C'est quand même une pensée qui n'a pas duré trop longtemps et qui a toujours essayé de se métamorphoser.
Alors au-delà des valeurs, le prix des places pour assister aux épreuves des Jeux Olympiques de Paris 2024 a fait polémique. C'est 195 euros minimum pour assister à un podium.
Mmh.
Alors d'accord, c'est pas propre aux JO. Il faut aussi manger des pâtes pendant 3 semaines pour aller voir le PSG justement. Mais être spectateur d'une compétition sportive, c'est devenu un luxe aujourd'hui.
C'est devenu un luxe si je le place juste dans le pouvoir d'achat. Si par contre je le place dans la pulsion, dans l'envie, dans l'amour d'une discipline particulière, quelqu'un qui aime l'escrime, c'est pas le prix en question. Quelqu'un qui aime la voile, c'est vraiment pas le prix en question. Et quelque part, que je le veuille ou pas, c'est à mettre en concordance avec l'audimétrie et la manière avec laquelle une discipline peut être médiatisée. Alors si le foot vaut aussi cher, c'est pas mon problème, je dirais presque que je suis très content que ça soit aussi cher. Peut-être qu'on aura moins de débordements, l'athlétisme c'est quand même pas donné non plus. Dans certaines disciplines, moi ancien du saut en hauteur, je regrette, le saut en hauteur c'est pas cher. C'est le 100 mètres qui est cher. parce qu'il a une médiamétrie monstrueuse, parce qu'il va pouvoir véhiculer des grilles commerciales énormes, et les tarifications par rapport au spot vont être d'une autre manière. Après, il faut le remettre aussi dans le contexte de la retransmission dans d'autres pays. Quelles sont les disciplines qui vont avoir une véritable couverture sur 180 pays ? Si le baseball tape à la porte des Jeux Olympiques pour la prochaine édition de Los Angeles, c'est pas un hasard. Le baseball, c'est aussi le sport numéro un au Japon. Donc, comme par hasard, là aussi, on va se retrouver avec des grilles, des objets, des tarifications en fonction des disciplines qui vont évoluer d'une édition des Jeux Olympiques à l'autre.
Mais peut-on être bon marché et luxueux ?
Oui.
Oui ?
Oui, quand on est respectueux des matériaux, du savoir-faire ancestral, on n'est pas obligé de faire avaler un luxe qui, à ce moment-là, est vraiment mensonger à des gens qui ont la méconnaissance de la technicité et des process qui ont été mis en place et qui vont utiliser juste un logo. C'est pas parce qu'on a un C de Chanel sur un t-shirt que le t-shirt est magnifié, c'est toujours un coton basique.
Quelle est la définition du luxe ?
Une aspiration, l'identification d'un véritable rêve et non pas d'un besoin. Un approfondissement en analyse personnelle de ses envies, de ses pulsions les plus secrètes. Donc, grosso modo, un fantasme. La manière avec laquelle je vais pouvoir compenser mon instinct de frustration permanent. Donc, le luxe, c'est identifier ce qui plaît. C'est déjà pas toujours évident. Ce qui est exceptionnel. C'est vraiment pas évident lorsqu'on se laisse soumettre au marketing et au mimétisme girardien. Et a fortiori, savoir dans quel registre et pourquoi on achète un objet. Si c'est juste une recherche de logo, pardon, la scarification, ça existait au niveau tribal.
Et la définition du sport ?
Le sport, c'est un aboutissement d'une philosophie de vie. Olympic Spirit, pour moi, c'est simplement démarrer à un niveau et chaque jour essayer de progresser. Progresser en termes de discipline, certes, mais peut-être en termes de santé, en termes de cohésion sociale, en termes de d'esprit d'amalgame. Coubertin, déjà en 1904, avait trouvé inadmissible les ethno-jeux qui étaient organisés par les Américains pour faire concourir des peaux rouges contre des noirs contre eux. Et il avait déjà annoncé que les races dites de couleur feraient trépasser la race blanche.
Donc le sport, c'est s'élever, et le luxe, on est déjà au sommet, c'est normal que les deux se rencontrent.
Non, le luxe, on n'est pas obligé d'y être tout le temps. On peut juste y monter de temps en temps pour se rassurer parce qu'on est en train d'essayer de compenser un réflexe de frustration élémentaire.
Pour aller voir les dieux de l'Olympe.
Pour monter la pyramide de Maslow, les dieux de l'Olympe, ils étaient suffisamment cachés pour que personne n'y aille. Et quand on voit les monuments de l'Olympe la première fois, on sait pourquoi, on n'y allait pas. Enfin, les Grecs n'y allaient pas. Et il faut se remettre dans toute la mythologie. Il faut partir d'Héraclès et imaginer pourquoi Olympie n'était habitée que par des prêtres. Pourquoi seulement les 4 ans ? Et pourquoi tout était nomade ? 45 000 spectateurs dans un stade de 45 000 il y a 2500 ans, le PSG peut changer de communication et de technique marketing.
On leur en parlera. La pratique du sport, elle aussi, elle est devenue coûteuse dans une certaine mesure. Le business des salles de sport s'est considérablement développé ces dernières années. L'équipement d'un simple jogger peut atteindre des sommes importantes, sans compter les écouteurs qui vont avec. Est-ce qu'on va vers une pratique à deux vitesses, les sportifs de luxe d'un côté et les autres ?
Là, j'enlèverai le mot luxe. Est-ce qu'on va dans une logique de pratique du sport mimétique ? Je veux ressembler à l'autre. Alors à ce moment-là, on parlera de mode et certainement pas de luxe. Le vrai luxe, il est d'abord et en avant tout endogène. Je dois savoir ce que j'aime, donc je dois savoir ce que je choisis. Si par contre j'achète la dernière collection Nike parce que ma voisine avec laquelle je cours à 2,3 km/h a choisi les mêmes, c'est du mimétisme total. Donc il n'y a pas un réflexe de choix au sens strict du terme. Le vrai luxe, c'est de savoir quel type de matériel on va utiliser par rapport à la technologie et à la maîtrise qu'on peut en avoir. Suivant le type de voiture dans lequel je roule, je sais lesquelles je peux maîtriser et lesquelles vont me maîtriser. Une Formule 3, ça se conduit facilement quand on sait conduire. Par contre, quand on passe sur d'autres boîtes de vitesse, d'autres puissances délivrées, on a une adaptation. Donc, quel est le luxe ? Celui qui achète une Ferrari parce qu'il a envie de rouler en Ferrari ? Ou celui qui achète une Ferrari par rapport à la vitesse ? Ou celui qui achète une Ferrari par rapport à la couleur ? Le critère de choix est essentiel.
La deuxième médaille française de la journée.
Bravo à l'équipe de France, ils l'ont fait !
L'affiche de Paris 2024 a aussi beaucoup fait parler. Elle est complètement différente des anciennes qui étaient dessinées par de grands artistes.
Donc, critère esthétique personnel, je l'aime pas du tout. Parce que non seulement elle tranche en n'en plus savoir que faire, mais en plus de ça, pour moi, elle ne reflète pas ce qu'elle aurait dû refléter. Ceci étant, connaissant le Kojo un peu de l'intérieur, la logique de casser les codes et d'être en concordance avec l'évolution sociétale, elle est reflétée dans l'affiche, donc quelque part l'artiste a fait l'œuvre de commande qui était la sienne. Si je me réfère aux éditions précédentes des Jeux Olympiques, jusqu'en 1948, les Jeux Olympiques n'étaient pas simplement dévolus à des pratiques sportives, mais aussi à de la littérature, de la sculpture et de la création artistique. Donc, quelque part, on a peut-être perdu dans cette dimension qui n'avait rien à voir avec une simple logique coubertinienne. C'est d'abord et avant tout la capacité des Jeux Olympiques à pouvoir irriguer nombre d'activités en dehors de cela, que je remettrai en cause. Mais c'est clair que succéder à Soulages, Miro, Hartung et tous les autres, ça a perdu. Et d'une édition à l'autre, les types d'organisations, les colos, entre guillemets, ont changé leur mode opératoire. Munich avait demandé à une cinquantaine d'artistes de produire une affiche qui aujourd'hui fait date, puisque les collectionneurs se les arrachent, au même titre que 2004, les Jeux d'Athènes, mais là, on va dire que l'enracinement ethnique, étymologique, philosophique des Jeux était tel que, jusque-là, y compris la torche, voulait représenter quelque chose de grec au sens 2500 ans avant. Pour être rentré d'Olympie et d'avoir allumé la flamme, c'est bien écrit 3000 ans de Jeux olympiques.
Le luxe aurait pu être une discipline olympique?
Oui.
Vous l'imaginez le
comité, tout ce qui est aujourd'hui regroupé dans le comité Colbert, tout ce qui était les confréries de Louis XIV et de Colbert, donc à l'époque, c'était bien déjà une identification des meilleures pratiques. Ce que l'on met en avant, le savoir-faire français, c'est tellement générique que ça en perd son impact. Par contre, le meilleur bijoutier, là, sur la table, on a une coupe de Christoffel. C'est quelqu'un d'assez célèbre. Le luxe existait déjà. La coupe, elle date de 1920 à Anvers. J'ai des coupes qui datent de 1903, les premières épreuves de voile, avant que la voile ne devienne une discipline olympique. Mais là, c'était le meilleur bijoutier de l'époque qui le faisait. Donc l'excellence polymorphe, elle peut exister à tous les niveaux, entre guillemets, dans le mouvement olympique.
L'affiche du Paris 2024, quel est le message qu'elle fait passer?
Elle est supposée être dans un œcuménisme propice à l'éclosion d'une cohésion sociale que l'on revendique tous et que l'on aimerait voir arriver. Malheureusement, il y a quelques symboles qui ont plus ou moins été filtrés par le politiquement correct actuel.
Et celle de Miro en Barcelone, par exemple.
C'était une expression artistique pure et dure. Et comme par hasard, il y avait les couleurs de la Catalogne. Barcelone, c'est pas l'Espagne, c'est la Catalogne d'abord. Donc le rouge et le jaune, ça y était, mais ça y était en filigrane.
Et donc, à cette manière, le sport participe-t-il à la démocratisation du luxe?
Il y contribue, il l'amplifie. Tout ce qui est luxe, par définition, deviendra mode. Quelque part, si ça ne reste pas suffisamment inaccessible, dans l'hyper-démocratisation, le luxe va perdre son essence. S'il perd son essence, il devient démocratique, peut-être même too much. Donc, dans une logique d'évolution technologique, il y a forcément, en même temps, à imaginer une ABAC des prix, avec une diminution exponentielle de ces prix-là au fur et à mesure que le marché s'agrandit. Donc, ce qui est réservé à une élite, que ça soit un bijou ou un javelot ou une Formule 1, à un moment ou un autre, ça a quand même une logique d'augmentation de la vitesse, de la kinétique de diffusion dans un marché plus grand. Donc, si aujourd'hui on a des ABS et on a des coques en titane sur les Formule 1, on peut très bien imaginer demain avoir des valises en titane pour une grande marque de luxe que je ne citerai pas, de la même manière que hier on avait de l'aluminium chez Rimowa ou chez d'autres. Et pour autant, ça n'a pas empêché nos parents ou nos grands-parents, plutôt en ce qui me concerne, après 1936, d'avoir des valises en aluminium quand ils partaient en congé payé.
Merci, Van Costemanière.
Merci, Kevin, de cette nouvelle occasion de parler d'olympisme.
Si le luxe fait briller vos yeux et chanter vos oreilles, un autre épisode de Make Sense pourrait vous plaire. J'ai reçu Emmanuelle Rigaud, la directrice du Master of Science Global Luxury Management de Schema Business School. Ensemble, nous nous sommes penchés sur un paradoxe. Pourquoi le luxe ne meurt jamais à travers James Bond? Pour l'écouter, rendez-vous sur votre plateforme préférée.